chétif. Cet adjectif vient du latin captivus, captif, prisonnier de guerre. Aussi, dans l'ancienne langue, a-t-il le sens de prisonnier. Mais de très bonne heure, cette signification primitive se trouve en concurrence avec la signification dérivée, celle de misérable. Les latins ne sont pas les auteurs de la dérivation que le mot a subie. Ce sont les romans qui l'ont ainsi détourné. Détournement qui, du reste, se conçoit sans beaucoup de peine, le prisonnier de guerre étant sujet à toutes les misères. Et à mesure que le temps s'est écoulé, le français y a laissé tomber en désuétude l'acception du captif, et il n'y est plus resté que celle de misérable. Mais une singularité est survenue au XVIe siècle. La langue savante a francisé captivus et en a fait captif. Les procédés de la langue populaire et de la langue savante sont tellement différents que chétif et captif, qui sont pourtant le même mot, marchent côte à côte sans se reconnaître. Il faut convenir que chétif ayant irrévocablement perdu son sens de prisonnier, captif est un néologisme du XVIe siècle. Choisir. Le mot germanique qui a produit notre « choisir » signifie « voir, apercevoir, discerner ». Aussi est-ce l'unique acception que « choisir » a dans l'ancien français. « Choisir » au sens d'élire ne commence à apparaître qu'au XIVe siècle. Et à mesure que « choisir » s'établissait au sens d'élire, « élire » lui-même éprouvait une diminution d'emploi. Le français moderne n'a gardé aucune trace de la vraie et antique acception de choisir. Il n'a pas été nécessaire de donner une forte entorse au mot pour lui attacher le sens d'élire, et discerner qu'il enferme, conduit sans grande peine à faire un choix. Et ici se présente une singularité, tandis que, anciennement, choisir n'a que le sens de voir. Choix n'a en aucun temps celui de vue, de regard, il veut toujours dire élection. Dès l'origine, le traitement du verbe a été différent du traitement du substantif. Discernement, si voisin du sens d'élection, a prévalu dans celui-ci, tandis que le sens plus général de voir prévalait, selon l'étymologie, dans celui-là. Dès lors, on conçoit que le XIVe siècle ne fit pas un grand néologisme de signification quand il rendit « choisir » synonyme d'élire. Mais « choisir » au sens de « voir » en est mort. C'est un cas assez fréquent dans le cours de notre langue qu'une nouvelle acception met hors d'usage l'ancienne. Compliment. Compliment est le substantif de l'ancien verbe « complir » et signifie « accomplissement ». Il a ce sens dans le XVIe siècle. Le XVIIe siècle n'en tient aucun compte, et laissant dans l'oubli cette acception régulière, il en imagine une autre, celle de paroles de civilité adressées à propos d'un événement heureux ou malheureux. Il aurait bien dû nous laisser entrevoir quelques intermédiaires l'avaient conduit si loin dans ce néologisme de signification. Ce qui semble plus plausible en l'absence de tout document, c'est que dans les paroles ainsi adressées, il a vu un accomplissement de devoir ou de bienséance, et le nom que portait cet acte, compliment ou accomplissement, il l'a transféré aux paroles mêmes qui s'y prononçaient. Notez en confirmation que le premier sens de compliment, selon le XVIIe siècle, est discours solennel adressé à une personne revêtue d'une autorité. C'est donc bien un accomplissement. Converser, conversation. Converser, d'après son origine latine, veut dire vivre avec, et n'a pas d'autre signification durant tout le cours de la langue jusqu'au XVIe siècle, inclusivement. Conversation, qui en est le substantif, ne se comporte pas autrement, et nos aïeux ne l'emploient qu'avec le sens d'action de vivre avec. Puis tout à coup, le XVIIe siècle, fort enclin au néologisme de signification, se donne Lysandre en conversation, et il ne s'en sert plus que pour exprimer un échange de propos. Ce siècle qu'on dit conservateur ne le fut pas ici, car s'il lui a été si licite de placer du sens primitif au sens dérivé, il n'aurait pas dû abolir le premier au profit du second. C'est un dommage gratuit imposé à la langue. Converser a été plus heureux. Il a les deux acceptions, et la tradition d'ordinaire respectable n'y a pas été interrompue. Coquet, coquette. Un coquet, dans l'ancienne langue, est un jeune coq. On ne peut qu'applaudir à l'imagination ingénieuse et riante qui a transporté l'air et l'apparence de ce gentil animal dans l'espèce humaine et y a trouvé une heureuse expression pour l'envie de plaire, pour le désir d'attirer en plaisant. On ne sait pas au juste quand la nouvelle acception a été attachée à coquet. Je n'en connais pas d'exemple avant le XVe siècle. Côte. Le sens étymologique est celui d'os servant à constituer la cage de la poitrine. Longtemps, le mot n'en a pas eu d'autre. Puis, au XVIe siècle, on voit apparaître celui de pente, champ, de colline. En cette acception, l'ancienne langue disait un pendant. La côte d'une colline a été ainsi nommée par la même suggestion qui forma côté, costé et coteau, costaud. On y vit une partie latérale assimilée dès lors sans difficulté aux os comportant la partie latérale de la poitrine. C'est le XVIe siècle qui a eu le mérite d'imaginer un tel rapport. Nous usons sans scrupule sa hardiesse néologique qui susciterait plus d'une clameur si elle se produisait aujourd'hui. Toutefois, notons que nos aïeux, enfin les aïeux antérieurs au XVIe siècle, n'avait pas été trop mal inspiré en nommant au propre un pendant, ce que nous nommons une côte au figuré. Cour, C-O-U-R. Il y avait dans le latin un mot corse ou corse qui signifiait enclos. Il se transforma dans le bas latin en courtis, qui prit le sens général de demeure rurale. Devenu français, il s'écrivit étymologiquement avec un T, court, C-O-U-R-T, et figure sous cette forme dans des millions de lieux, en Normandie, en Picardie et ailleurs. Et comme, sous les Mérovingiens et les Carolingiens, les seigneurs et les rois habitaient ordinairement leur maison des champs, court, C-O-U-R-T, prit facilement le sens de lieu ou séjour d'un prince souverain. On a là un exemple de l'anoblissement des mots. Celui-ci a quitté les champs pour entrer dans les villes et les palais. En la langue d'aujourd'hui, ces deux extrêmes se touchent encore. La basse cour tient à l'usage primitif et la cour des princes à l'usage dérivé. Une fausse étymologie qui naquit dans le XIVe siècle étira notre mot de « curia ». Il supprima le T, mais outre que le T figure dans les dérivés courtois, courtisan, curia devrait donner non pas cour, mais cuir ou coire. Nous avons laissé la bonne orthographe des XIIe et XIIIe siècles, C-O-U-R-T, et gardé la mauvaise du XIVe. Si bien qu'il est devenu difficile de comprendre comment organiquement on a fait pour former le dérivé courtisan, et l'usage est assez penaud quand on lui représente que courtisan jure avec cour, ainsi travesti.